Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien de la librairie des étudiants. 2 ans après le succès de son premier roman Dans l'œil de la vengeance, notre autrice du jour revient sur le devant de la scène littéraire avec son nouveau roman, publié en ce début du mois de mars aux éditions Rouergue. « Écoule le sang du désert », c'est le titre de votre nouveau roman. Bonjour Nathalie Gautreau.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour
avec
parler
plaisir.
De votre nouveau roman. Nous retrouvons Louise Parizet, avocate pénaliste au barreau de Lyon, avec aussi son associé Jordan ou encore Kofi, devenu son assistant, où nous le voyons d'ailleurs découvrir son métier au fur et à mesure de vos chapitres. Le quotidien de l'avocate bascule lorsqu'elle est appelée pour prendre en charge la défense de Léa, une jeune femme fragile et sous emprise qui est en garde à vue. Chez elle ont été retrouvés des stupéfiants et ses aveux à la police permettant de faire avancer l'enquête vont aussi faire d'elle une cible à abattre de la part des narcotrafiquants. Cette histoire se croise avec une autre, celle d'un jeune homme tueur à gages qui sillonne les routes de France pour exécuter des contrats commandé par l'alligator, une sorte de parrain des temps modernes, n'hésitant pas à faire tuer quiconque est en travers de son chemin. Écoule le sang du désert, c'est un roman policier qui nous emmène au cœur du narcotrafic, au cœur de la misère, de la dépendance, des conflits autour de la drogue. On jongle entre ombre et lumière. Votre premier roman traitait des immigrés clandestins, votre nouveau roman sur le narcotrafic. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire sur ces sujets sociétaux qui sont très sombres ?
Bien, parce que ce sont des sujets qui nous affectent en tant que citoyens. Ce sont des sujets du quotidien qui sont souvent, je dirais utilisés par les hommes politiques. Et moi, j'aime bien écrire sur ces sujets comme ça. Sur ces sujets difficiles, en fait. Voilà.
C'est une appétence, en tout cas, que vous cherchez peut-être à donner un autre regard sur ces sujets.
Oui. Oui, alors, je veux montrer un autre regard sur les personnes qui sont prises dans ces situations, autant pour les sujets de la migration, parce que dans le deuxième roman, on parle toujours
aussi
de la migration, mais de manière différente, peut-être de manière un peu plus globale, sur le parcours des exilés. Donc je voulais montrer aussi ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est-à-dire la violence de cette migration pour les migrants eux-mêmes.
Mmh.
Et puis pour le narcotrafic, je voulais montrer aussi que les petites mains du narcotrafic sont souvent aussi des victimes.
Donc beaucoup de documentation, on imagine.
Oui, beaucoup de lectures, beaucoup de documentation avec des romans ou des livres enquêtes, la presse aussi quotidienne.
Et puis on peut le dire aussi, votre métier.
Oui.
Tout de même, vous êtes assistante juridique.
Oui.
Comment ce métier vous a-t-il servi à faire littérature, on va dire, du macabre quotidien de Grenoble ? Parce que votre roman se base aussi à Grenoble sur une bonne partie.
Oui, oui. Là pour ce deuxième roman, j'ai voulu situer l'intrigue à Grenoble parce que c'est ma ville et que je la connais bien. Donc je voulais parler, si je parle du narcotrafic, je voulais parler d'un quartier spécifique. Et l'autre aspect, en fait, qui nourrit ma plume, c'est ce personnage de Louise, parce qu'elle est avocate et parce que moi, en tant qu'assistante, j'ai un regard sur le métier des avocats, qui n'est pas mon métier, mais je connais quand même un petit peu leur métier. En tout cas, comme je suis dans l'ombre, je vois des choses que les citoyens ne connaissent pas, et j'aime bien en parler.
Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous nous donner à voir justement ce quotidien d'avocate, ce quotidien aussi de l'autre côté du miroir, au niveau des trafiquants, avec des termes qui sont à chaque fois explicités.
Mm.
Donc en plus, vous accompagnez le lecteur, enfin vous ne nous lâchez pas d'ailleurs, durant tous les romans sur les quelques 350 pages, on n'est pas lâché, donc c'est aussi le plaisir de vous lire. On a aussi le plaisir justement de retrouver vos personnages du premier roman, donc le jeune Kofi, l'avocat maître Parizet et tant d'autres encore. Qu'est-ce qui vous a poussé précisément à les reprendre ? Parce que certains auteurs parfois font un premier polar, puis ils repartent à zéro.
Ouais.
Vous étiez beaucoup trop attaché justement au personnage de Louise et ses compères.
Oui, oui, c'est des personnages que j'aime beaucoup, que je trouve très humains. J'avais pour projet, en fait, dès le départ, d'écrire une série.
Mm-hmm.
Parce que j'aime bien les séries policières, comme la série d'Adler Olsen.
Mm-hmm.
Et celle aussi écrite par Val McDermid avec Carol Jordan et Tony Hill. Donc j'aime bien les séries, mais pas que, hein, j'aime aussi les one-shots. Mais j'avais envie qu'on voit évoluer mes personnages au fil des romans. Et c'est ce qui se passe, en fait. Donc, Kofi, dans le premier roman, il est en situation irrégulière en France. Et dans le deuxième roman, sa situation, elle s'est régularisée au point qu'il devient assistant juridique et qu'il travaille pour Louise Parisé, qui, au départ, l'a défendu dans la régularisation de ses papiers avec son associé Jordan. Donc j'aime bien l'idée de les voir évoluer et j'aime bien l'idée aussi qu'on s'attache, que dans ces romans qui sont des séries, on puisse à la fois aimer l'intrigue et s'attacher au personnage. Pour moi, je trouve que c'est assez complémentaire.
Puis il y a aussi une beauté du geste, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines questions, de ces personnages finalement qui s'ouvrent aux autres.
Oui.
Ça qui est... Mais j'aurais d'autres questions aussi à vous poser là-dessus. Votre roman, c'est donc une photographie de ces systèmes pyramidaux de domination, en tout cas pour le narcotrafic. Le grand chef, avec ici le personnage de l'alligator, les dealers, les guetteurs, les femmes sous emprise également, la domination. Ouais. Quand on voit ce système, on pourrait presque croire que c'est peine perdue que de s'y frotter, finalement, d'aller contre ce système-là, peut-être sortir aussi les gens qui, finalement, sont dominés, sont écrasés, sont retenus. Quels seraient peut-être des solutions pour endiguer définitivement ces phénomènes?
Alors définitivement, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, il faut qu'on ait la clairvoyance aussi de voir quelle est cette violence pour les gens qui sont à l'intérieur. Peut-être on en parle souvent, mais la répression sans la prévention, elle n'a pas forcément de sens, parce que quand vous punissez quelqu'un et que vous lui donnez pas la possibilité de se réinsérer, bah, il va retourner à ce qu'il faisait avant. Et quand les enfants grandissent dans les quartiers, si on ne leur donne pas non plus la possibilité de s'émanciper, ils vont rester dans le quartier et peut-être que l'appel du quartier est plus fort que le désir de faire des études ou que le désir d'aller trouver un emploi.
Est-ce que c'est aussi quelque part une question, une forme d'abandon, peut-être aussi de la part de la famille ou un décrochage scolaire aussi qui peut nourrir cette forme de dépendance à l'argent facile qu'est la drogue, justement, parce que le dealer, le Libyen, l'explique qu'en une après-midi, il peut faire jusqu'à 60 voire 120 euros contre une journée de travail qui n'est pas autant rémunérée.
Ben évidemment. Alors, je pense que, plutôt que de pointer du doigt, je pense que c'est une responsabilité qui est collective. Après, moi, je ne suis pas une femme politique, donc je n'ai pas...
Là, c'est plus l'avis de l'auteur que je cherche.
Oui. Ben, je dirais que la responsabilité, elle est collective. Il faut qu'on s'intéresse à ces problèmes. Moi, ce que j'ai eu envie, en tout cas dans ce roman-là et dans celui d'avant, c'est d'ouvrir un peu la perspective et qu'on puisse regarder au-delà de ce qu'on veut bien nous montrer habituellement dans les journaux ou ailleurs, et de se dire bah, c'est pas si simple, en fait. Donc on peut pas complètement condamner une situation. Il faut qu'on remonte aux origines. Et dans les procès d'assises, par exemple, quand vous jugez quelqu'un, l'accusé, on remonte à ses origines. Et souvent, ça permet de montrer qui est cette personne et comment elle en est arrivée là. Et je ne sais pas si ça lui donne des excuses, mais en tout cas, ça donne une compréhension du chemin de la personne et pourquoi elle en est arrivée là. Et moi, c'est ce que j'aime bien montrer aussi, l'origine, et surtout montrer que tout n'est pas manichéen, noir ou blanc. Voilà, c'est fait de plein de nuances de gris.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, en plus, vous le montrez très bien dans votre roman à travers ces différents personnages. Je pense notamment au personnage du Libyen, justement, qu'on apprend à découvrir au fil des pages, au fur et à mesure. On comprend qu'il a vécu d'immenses traumatismes.
Oui.
Il a quitté sa famille, il a traversé la Libye, il a connu les passeurs, la violence, la mort. Donc, effectivement, on comprend. Enfin, oui, on comprend, mais vous jouez aussi avec le lecteur au niveau du Libyen. C'est-à-dire qu'il y a des moments où On a de l'empathie pour lui.
Oui, c'est possible.
Beaucoup de compassion. On se dit, bon, peut-être que là, il va enfin se raccrocher à quelque chose. Et puis finalement, bon, voilà. C'est dans cette grande violence, dans ce grand système pyramidal, il y a un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. On le voit aussi dans les médias. Tant les règlements de compte défraient la chronique, aujourd'hui, oui. En tout cas pour Grenoble aussi, c'est le cas. Ce qui a changé, et vous l'écrivez d'ailleurs depuis plusieurs années, c'est une forme d'abandon d'un code d'honneur.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce code d'honneur qu'il y aurait pu avoir jusqu'à présent et qui aujourd'hui s'est effondré ?
Alors, je ne sais pas si c'est une vision idéalisée de ma part, mais quand j'étais petite, à Grenoble, c'était les Italiens qui tenaient la ville. Et il se disait qu'il y avait un certain code d'honneur. Après, code d'honneur, il est tout relatif quand vous exploitez des femmes et que vous les contraignez à la prostitution. Mmh. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de code d'honneur dans la mesure où dans le narcotrafic, si on veut impacter le camp adverse, bah on va tuer un gamin qui sort à peine de l'adolescence pour terroriser en fait les petites mains qui vont servir à ce trafic. Et c'est en ça, si vous voulez, que c'est extrêmement violent, c'est que tous les jours, en fait, les personnes qui sont le plus impactées, ce sont les gamins. Et les personnes les plus importantes, soit elles sont à l'étranger, soit elles sont bien, bien planquées. Mmh. Donc voilà, c'est devenu une machine extrêmement violente. Et avec l'ubérisation du crime, en fait, aujourd'hui, on peut commander un crime via les réseaux sociaux pour, je ne sais pas, 3 000, 4 000 euros. Et c'est des gamins tous les jours qui cèdent à l'appel de l'argent et qui vont commettre des crimes abjects au nom de l'argent, en fait, de l'argent facile.
Mmh. Et justement, il y a une qui pite quand même,
ouais,
de votre roman, oui, qui est très très violent, on peut le dire.
Oui.
C'est le cas. J'aimerais au moins vous en lire un passage, c'est pages 8 et 9. Mmh. Qui montre peut-être, qui répond justement à ce que vous dites, à l'ubérisation de cette violence, de cette mort à la carte, finalement. Oui. Arrivé au bout de l'avenue, il écrase les freins. Le crissement des pneus fige à la scène. Il s'éjecta de sa caisse. Le lieutenant, dans sa voiture, n'eut pas le temps de réagir. Il lui colla une balle dans la tempe. Du sang gicla sur sa main et ses vêtements. Il pivota vers le groupe. Le gamin, dans son fauteuil, se cramponna aux accoudoirs. Il visa son ventre pour ne pas être éclaboussé. L'autre, sur son scooter, était tombé à la renverse de frayeur. Son engin lui bloquait une jambe, l'empêchant de fuir. Il chialait et le suppliait de l'épargner. Face à la mort, on ne triche plus. La mort est un gouffre, sombre, peuplé de fantômes hurlants. Qui voudrait y errer pour l'éternité ? Il tira dans une des mains derrière laquelle le merdeux se protégeait. La balle la transperça avant d'aller se loger dans sa poitrine. Autour de lui, il n'y avait plus une âme qui vive. Les autres jobbers, là vous précisez travailleurs pour le trafic de drogue, s'étaient enfuis en abandonnant leurs potes. Les rares passants qui déambulaient dans la coursive, avant qu'ils ne fassent un carnage, étaient réfugiés entre les voitures garées. Il sortit son téléphone et filma sa scène de crime. Le gamin, toujours vautré dans son fauteuil, la tête renversée en arrière, les yeux grands ouverts, l'autre sous son scooter. Maintenant, il avait l'air de dormir paisiblement. Il s'attarda quelques secondes sur sa première victime dans l'Apollo. Du sang et de la cervelle avaient giclé un peu partout dans l'habitacle. Avec ça, il était certain que sa vidéo ferait le buzz. Triste écho à ce qui s'est passé il y a quand même quelques temps, lorsque justement des personnes ont dégoupillé une espèce de fausse grenade dans un institut de beauté à Grenoble.
Tout à fait.
C'est quelque chose, cette ubérisation-là, c'est aujourd'hui monnaie courante.
C'est monnaie courante et en fait, ça peut toucher tout le monde. Et ces crimes peuvent être commis par n'importe qui. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, ça s'ubérise. Et les gamins qui en arrivent à commettre ces crimes, ce sont des gamins qui sont interchangeables, en fait, pour le commanditaire. Ils n'ont aucune valeur.
Le lendemain, il y aura de nouveau une autre personne. Alors, celui qui filme dans cette kipite de votre roman, cette tuerie, donc ce tueur à gages, c'est surnommé le Libyen, on en a déjà un peu parlé, de par ses origines. Sans attache et sans loi, il est là pour exécuter cibles et autres contrats. Une façon de nous rappeler, quelque part, à travers ce personnage du Libyen, que dans même ce système pyramidal qu'il exploite lui-même, il peut aussi toucher n'importe qui.
Oui, tout à fait. Lui, il fait partie de... C'est un rouage de la machine. Hein. C'est le prolongement, en fait, de, de la main de son commanditaire. Et donc, la seule chose qui l'intéresse, en fait, c'est de gagner de l'argent pour se sortir de sa condition, en fait. Il veut s'élever dans la société parce qu'il est traumatisé par tout ce qu'il a vécu. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de devenir riche.
Mais du coup, vous dites qu'il veut s'en sortir, mais d'un autre côté, il reste aussi très dépendant de ce système.
Bien sûr.
C'est le serpent un peu qui se mord la queue.
C'est le serpent qui se mord la queue et on peut se douter que ce genre de personnage, un tueur à gages, n'a pas une vie très, très longue. Donc c'est une vision en fait à court terme. Mmh. Il veut s'en sortir, mais c'est très court-termiste.
Mmh. On a parlé d'absence d'honneur, d'enchaînement de ces contrats mortels. Oui. Comment vous définiriez, vous, la psychologie de ce genre de personnage comme le Libyen ?
Alors, je dirais que c'est une personne qui a effectivement vécu tellement de traumatismes qu'il est complètement dissocié et qu'il n'a plus aucune notion de la valeur de la vie, pas plus de la sienne que de celle de son prochain, ce qui fait qu'il peut, il peut passer à l'acte sans problème. Mmh. Il n'a pas de réticence, et peu importe qui est-ce qui va cibler son... Son seul désir, c'est de gagner de l'argent.
On peut prendre l'exemple également de Betty, donc une jeune femme qui a recours à la prostitution, qui au début donc, n'est là que pour être la prostituée, auquel il va demander des services. Mmh. Mais au bout d'un moment, il y aura quand même un renversement qui va se basculer. Elle va lui tendre la main, elle va essayer de l'aider, et lui aussi d'ailleurs. Hein.
Oui.
Mais peu importe, il suffit de pas grand-chose pour que la trahison soit de mise.
Oui, oui. Betty, effectivement, alors elle, si vous voulez, c'est un autre personnage par lequel je parle de migration. Elle a eu un parcours aussi extrêmement difficile. Et du coup, ces deux âmes solitaires vont se rencontrer. Et au départ, effectivement, c'est pour un service tarifé. Mais en fait, lui va... Ce qu'il y a, à mon avis, de touchant dans ce personnage, dans celui du Libyen, c'est que finalement, c'est quelqu'un de très seul. Mmh. Et il va rencontrer en Betty son alter ego, ce qui pourrait être son alter ego. Et il va s'y attacher de manière extrêmement rapide. Mais c'est fragile, en fait. C'est pas quelque chose de pérenne. Mmh. Dans cette situation-là, si vous voulez, n'importe quoi, il suffit d'une phrase pour que ça déraille.
Et ce qui est curieux, c'est que, au fur et à mesure de votre roman, donc on a quand même, je le disais un peu, autant d'empathie que de dégoût pour ces personnages du Libyen, de Betty aussi, au moment où on est un peu perdu. On ne sait plus trop quoi penser d'elle, parce qu'on est forcément, entre gros guillemets, du côté du Libyen. Mais... On pourrait même se demander si ces deux personnages, comme tous les autres qui sont touchés par le narcotrafic ou par une forme d'emprise de dépendance, ne demandent finalement qu'une chose, c'est qu'on leur tende la main.
Oui, bien sûr. Oui. Non, mais lui, le Libyen, il a voulu tendre la main effectivement à Betty pour, quelque part, pour combler une solitude. Et elle est victime des hommes en tant que prostituée. Alors, je ne peux pas expliquer exactement... dans son ensemble, mais en tant que prostituée, elle a forcément un souteneur et c'est un homme, et ses clients, ce sont des hommes, et elle aimerait bien sortir de ce système-là parce que Betty, elle s'est pas levée un matin en se disant je vais être prostituée. Mmh. Betty, elle a été contrainte et elle voudrait se sortir de cette contrainte. Et tous les moyens sont bons aussi pour se sortir de cette contrainte parce que dans ces situations-là, vous êtes mû par l'urgence en fait. Donc c'est le désir de vivre qui peut vous rendre peut-être moche, ou en tout cas vos actions être moches. Et tous les deux sont... Moi, je les trouve touchants parce qu'ils ont à la fois quelque chose de très humain. Et alors Betty, j'ai quand même une préférence pour Betty que pour le Libyen, parce qu'il commet des actes abjects. Et lui, il n'hésite pas à prendre la vie de quelqu'un alors qu'elle voudrait s'en sortir.
Oui.
Elle peut profiter de quelqu'un, mais elle veut s'en sortir.
Et de par leur traversée aussi jusqu'en Europe et jusqu'en France, le parcours de Betty est encore beaucoup plus sombre que celui du Libyen. Même.
Oui.
Enfin, c'est vraiment deux choses différentes. Donc bon, je ne l'explique pas pourquoi.
C'est deux traumatismes extrêmement violents pour les deux. qui font que ce sont des personnes complètement blessées et vraiment la seule chose qui les intéresse, c'est de s'en sortir.
Une forme de traumatisme un peu fondateur pour leur vie une fois arrivés
tout à fait.
En Europe. Vous avez parlé d'urgence dans leur vie du Libyen de Betty. Il y a aussi une autre urgence, c'est celle de la vie de Léa, qui est donc menacée parce qu'elle doit... Elle a osé balancer, en fait, aux policiers qui était qui dans un réseau. Et puis, cette menace, elle se déplace, elle fait un petit pas de côté, parce que Léa est donc soutenue par l'avocate. Et à ce moment-là, il y a aussi l'avocate qui est menacée, elle-même. Quelles sont les armes possibles pour le corps judiciaire, pour se protéger, mettre à distance, même physique, s'il y en a, je ne sais pas, de ces menaces-là?
Alors ça, je ne sais pas, parce que je ne peux pas répondre à la place des avocats. Je sais, de mon expérience, si vous voulez, j'ai l'impression que la violence, elle a pénétré maintenant un peu plus les cabinets d'avocats, ce qui n'existait pas avant. Et donc, j'ai l'impression que c'est tout à fait décomplexé. Maintenant, on peut s'autoriser à menacer des avocats ou à donner des ordres. Il y a quelques mois de ça, je crois, ou il y a un an peut-être, on a vu dans un tribunal deux groupes de personnes qui s'affronteraient dans la salle des pas perdus d'une cour d'assises.
Et donc ça, l'antichambre du tribunal.
Oui, de l'audience. Et ça ne s'était jamais vu avant. Si vous voulez, cette violence est devenue complètement décomplexée. Et du coup, je suppose que... on en a déjà entendu parler dans les journaux, mais les avocats peuvent être aussi soumis à cette violence. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les narcotrafiquants ont les moyens maintenant financiers de faire plier la justice et de faire plier les auxiliaires de justice. On voit qu'il y a des greffiers qui sont aujourd'hui poursuivis parce qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre au trafic de stupéfiants. On peut s'interroger sur le fait qu'ils aient été contraints.
Oui.
Il y a un avocat, là, c'est à Marseille... Ils ont fait un coup de filet, ils ont arrêté 40 personnes, et parmi les 40 personnes, il y avait un avocat. On peut se demander dans quelle mesure, si vous voulez, les auxiliaires de justice peuvent subir aussi des menaces, des pressions.
Ça rejoint un peu une des questions que je voulais vous poser, c'est par rapport au titre de votre roman.
Oui.
« Et coule le sang du désert ». C'est de part l'incipit, mais également les autres pages qui se suivent. Le sang du désert, on peut le comprendre comme ces migrants qui sont venus jusqu'en Europe, qui subissent le poids donc, de ce système pyramidal de la mafia, pas d'une mafia, mais voilà, d'une dépendance à la drogue, de voir vendre, vous l'avez dit d'ailleurs, ceux qui sont en bas de la pyramide sont changés du jour au lendemain. Donc ce sang du désert, c'est aussi celui-là. Le sang du désert, ça n'est pas uniquement eux finalement, ça pourrait être n'importe qui.
Oui, Léa Francourt, c'est une gamine qui est née en France, donc c'est pas une migrante. Et c'est aussi une victime collatérale du trafic de stupéfiants, parce que Léa Francourt, son compagnon, enfin son copain plutôt que compagnon, parce que c'était pas une situation pérenne entre eux, c'est un petit trafiquant de drogue, et elle s'en est pas aperçue. Et quand elle s'en est aperçue, elle a voulu le quitter, et c'était pas si simple.
Oui, ce qui est aussi, vous parlez aussi de l'emprise, que ce soit Léa ou même d'autres personnages qui vont à la rencontre de l'avocate, il y a tout une photographie de la société. La drogue, l'emprise, la violence, la domination. C'est un peu triste comme bilan actuel.
C'est pas un bilan.
C'est des lieux un peu de ce qui se passe, mais aussi, vous rendez compte aussi d'une forme de réalité.
Oui, bien sûr, oui, non, mais évidemment, c'est une forme de réalité. Après, pas que, si vous voulez, moi j'écris des romans noirs, donc dans les romans noirs, on montre ce qui dysfonctionne. Voilà, sinon on n'écrit pas de romans noirs. Donc moi, je m'attache à ce qui dysfonctionne, mais il y a heureusement beaucoup de choses qui fonctionnent. On est dans un beau pays et on est en démocratie, et rien que ça, c'est quelque chose qu'il faut préserver, parce que vous voyez aujourd'hui, dans la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, vous voyez comment les droits des citoyens reculent, les droits des femmes, les droits des citoyens qui sont issus de l'immigration. Avec la police ICE, c'est une catastrophe en fait.
Tout peut vaciller assez vite.
Tout peut vaciller.
Alors, ce qui est bien, c'est que vous construisez aussi en parallèle vos personnages. Pour reprendre le personnage de Kofi, donc on retrouve avec lui une dimension humaine, humaniste, j'ai même envie de dire, du sensible. Et puis, il suit également aussi son frère. Il apprend que son frère quitte le Sénégal pour tenter de le rejoindre en France. Il va donc tenter de traverser pays et mer pour le rejoindre. Et puis, en parallèle, vous avez donc ce tueur à gages, le Libyen, qui se dévoile au fur et à mesure à travers son récit de vie, avec des visions d'horreur, la faim, la peur, la mort, l'emprise. Ces parties-là de l'histoire des migrants sont rarement racontées, justement. On avait commencé un petit peu à en parler. Elles sont souvent tues. Qu'est-ce qu'ils disent à la fois d'eux et aussi de nous, ces silences de leurs histoires? Est-ce que c'est le refus de vouloir écouter l'autre, l'incapacité aussi de trouver les bons mots pour eux, de l'exprimer?
Certainement qu'il y a une incapacité ou enfin quand on les écoute, ils expliquent leur parcours. Vous avez même des auteurs qui le racontent, des auteurs issus de l'immigration. Mais est-ce qu'on est prêt à entendre? Est-ce qu'on a envie de les entendre? Parce que si vous voulez, à partir du moment où vous les entendez, vous vous rendez compte aussi de ce que peut être la violence de l'Occident vis-à-vis des pays d'Afrique. On est toujours plus ou moins dans une relation un peu coloniale avec les pays d'Afrique. On aime quand même bien profiter de leurs richesses. Et en échange, on leur renvoie nos détritus. Donc, il faut regarder les problèmes un petit peu dans leur ensemble. Et puis, il faut être capable d'altérité, il faut être capable d'accepter l'autre dans ses différences. Ça, on n'est pas toujours capable de le faire. Voilà. Après, concernant Demba, le frère de Kofi qui a disparu, alors pour Kofi, c'est une violence, parce qu'en fait, il n'a pas été prévenu que son frère avait quitté le Sénégal.
Il apprend ça quasiment 2 ans après.
Il apprend ça quasiment, plus d'un an après, par sa petite sœur, donc au détour d'une conversation. Et Kofi, en fait, il a beaucoup de pression sur les épaules parce qu'en fait, on l'a envoyé en France alors qu'il n'en avait pas réellement le souhait. Il était mineur. Et on l'a envoyé en France pour qu'il réussisse, donc il a la pression de la réussite, pour qu'il puisse aider ensuite toute sa famille. Et c'est ce qu'il fait, il s'est battu, il commence tout juste à s'en sortir et il apprend que son frère a suivi le même parcours que lui et que personne ne lui a demandé son avis. Son père ne l'a pas prévenu, personne ne l'a prévenu en fait. Donc il a l'impression en fait d'être toujours un pion pour sa famille et il doit lui sans cesse s'occuper de sa famille alors que ce n'est pas dans l'ordre des choses en fait.
Oui, il devrait pouvoir vivre un peu plus sereinement.
Ben, à 20 ans, oui.
De ce côté-là.
Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, mais c'est dans l'ordre de sa culture. Donc, c'est quelque chose qu'il accepte. Mais c'est vraiment un poids qui est difficile. Et moi, je veux montrer aussi que parfois, on ne demande pas leur avis à ces jeunes-là. Et c'est des jeunes qui sont mineurs, souvent. Et pour avoir des enfants, bah parfois je me mets à la place de ces jeunes et je me dis si c'était mes fils. Et c'est difficile de se dire que c'est des gamins qui sont déracinés, qui n'ont rien, qui arrivent en France et qui peuvent être rejetés. Leur parcours est... Une fois qu'ils sont arrivés en France, on peut se dire que en France ou ailleurs en Europe, on peut se dire ils ont atteint le but. Mais en fait, non, ça ne s'arrête pas. Et je ne sais pas si ça s'arrête à un moment donné pour eux.
C'est aussi ce que vous évoquez d'ailleurs dans votre premier roman, lors de l'arrivée de Kofi justement.
Oui.
Il y a de très belles scènes où vous le décrivez, il est livreur de repas le soir. Et justement, sa grande crainte, c'est déjà de pouvoir rentrer avec son vélo,
oui,
d'avoir le téléphone auprès de lui pour pouvoir justement joindre la famille,
oui,
et surtout ne pas se faire contrôler parce que à la moindre patrouille de police, c'est terminé pour lui.
C'est terminé pour lui. Et Kofi, comme il est livreur de repas et en situation irrégulière, il sous-loue un compte à un Français qui l'exploite.
Et ce qui est bien avec ce nouveau roman, c'est que vous le faites évoluer, justement.
Oui.
Dans le bon sens.
Dans le bon
sens.
Et
ça fait plaisir aussi de voir que... C'est ça qui est bien. Votre roman, c'est un roman noir, vous l'avez dit. Mais il y a quand même beaucoup d'éclats de lumière.
Oui.
Oui, vous arrivez quand même à contrebalancer, il y a des scènes qui sont très difficiles, bah, l'Incipit ou d'autres bien après.
Oui.
Mais vous arrivez quand même aussi à dire au lecteur, bon,
oui,
il y a de la violence, mais il y a aussi du bien.
Oui, je veux montrer en fait l'humanité qui est en chacun de nous. Donc, malgré des situations extrêmement difficiles, même dans un tueur à gages, j'avais envie de montrer un peu de lumière chez ce garçon. Qui on va pas se mentir, est abject dans
oui,
ses actes.
Ça n'est pas un bisounours, on est bien d'accord.
Pas du tout.
Vous nous offrez un roman addictif, riche, qui opère un retournement de situation à la mi-parcours. Ça, je ne pensais pas l'avoir vu venir. On ne peut pas en dire plus.
Mm-hmm.
Mais on peut dire que les prédateurs, finalement, deviennent un peu les proies.
Mm-hmm.
Que les personnages... Enfin, tout bascule. Et vous nous ramenez dans les quartiers de Grenoble, que ce soit Auch, Mistral ou encore Saint-Bruno. Comment ce cadre d'écriture-là vous a-t-il inspiré, en plus que de donner, en tout cas, aux lecteurs grenoblois ou isérois ou de passage, hein, une dimension beaucoup plus réelle?
J'avais envie d'écrire sur le trafic de stupéfiants, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est devenu un problème majeur en France. Et c'est un problème qui est en train de nous dépasser complètement. Et j'avais envie d'écrire là-dessus, mais pas uniquement que sur le trafic de stupéfiants, aussi sur ses victimes, qui n'ont pas l'air d'être des victimes comme ça de prime abord. De prime abord, on a peut-être un peu la...
Le jugement facile, peut-être.
Voilà, c'est exactement, c'est ça. On a un peu le jugement facile en disant, bon, bah, ils l'ont bien voulu. Alors que, tout à l'heure, vous disiez, qui est responsable? Est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que, je ne sais pas, c'est la politique sécuritaire ou je ne sais pas quoi? Et moi, j'avais envie de montrer ça. Et pour bien des situations, bah, par exemple, quand vous êtes issu d'une famille monoparentale et que... La plupart du temps, ce sont des mères, hein, puisque 80% des familles monoparentales sont dirigées par des mères. Eh bien, ce n'est pas facile pour une mère d'éduquer ses enfants, quand bien même elle bosse. Elle n'arrive peut-être pas toujours à boucler les fins de mois. Et du coup, si vous habitez dans un quartier difficile, eh bien, il y a une facilité aussi pour les prédateurs d'aller s'emparer de ces gamins.
C'est ce que vous décrivez aussi, qu'ils font la loi dans le quartier, ils rendent plein de bons services.
Tout à fait.
Mais derrière, on comprend que le prix à payer n'est pas le même.
C'est comme à une certaine époque, le prix à payer, c'était de laisser un de ses fils à l'église.
Oui.
Aujourd'hui, c'est au trafic de stupéfiants.
Et d'ailleurs, vous expliquez aussi que justement, dans le jugement que peuvent avoir justement les gens sur les victimes des narcotrafics, d'ailleurs, c'est le Libyen qui explique que... Il ne s'embarrasse pas que d'une personne, il préfère tuer plusieurs personnes comme dans l'Incipit.
Oui.
Parce que finalement, déjà ça met les flics sur les nerfs, et en plus, il n'y a pas qu'une seule femme qui va pleurer son enfant.
Alors ça, mais c'est surtout qu'en fait, quand il tue comme ça des petites mains du trafic, ce sont des gamins, donc ils ont la candeur de se croire immortels.
Mmh.
Alors que quand il a un contrat... où il doit viser quelqu'un qui est plus haut dans le réseau du trafic de stupéfiants, c'est quelqu'un qui est habitué à la violence, c'est quelqu'un qui va ne faire confiance à personne. Et là, pour le coup, pour lui, c'est peut-être plus difficile, et la mise en danger, pour lui, elle est bien plus réelle. Parce que tirer sur un gamin qui est assis sur une chaise,
c'est
le gamin
ne
va pas le voir venir.
Oui.
Voilà, parce qu'il a une forme d'innocence. Et du coup, il y a quelque chose aussi d'assez cynique là-dedans. C'est qu'effectivement, lui, il préférera aller tuer des gamins de son âge ou un peu moins, quoi.
Mmh. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans votre roman, vous balayez justement toutes les situations. Comme là, vous n'êtes... Non, mais ouais. Alors, c'est pas... Voilà. Et comme vous l'expliquez, là, actuellement... pour l'Incipit des gamins, mais
ouais.
Aussi quelqu'un d'un peu plus haut, quand il doit se rendre à Lyon,
ouais.
Je n'en dis pas plus, ouais. Mais voilà, ça permet aussi...
C'est plus compliqué, là,
ouais,
du coup.
Oui, d'ailleurs, on est un peu plus attentif à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un épître dédicatoire, vous commencez avec Victor Hugo, votre
oui.
roman. « Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. » Est-ce que c'est aussi cela? Pour vous, la définition de la littérature?
Oui, parce qu'il ne faut pas asséner les vérités. Les vérités, elles vous appartiennent et elles dépendent de votre parcours de vie. Donc, y a toutes sortes de vérités. Et moi, je préfère montrer et dire au lecteur, bah, voilà les choses comme moi je les vois. À vous de vous faire votre opinion.
Donc, quand on dit que la littérature est le dernier rempart d'une démocratie...
Oui, mais oui, lisez.
Lisez justement « Écoule le sang du désert ». C'est votre deuxième roman, Nathalie Gautreau, publié depuis ce début du mois de mars aux éditions Rouergue Noir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Thomas.
Amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous dès mercredi pour ouvrir ensemble un nouveau roman. D'ici là, la capsule auditive de notre chronique du jour est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de belles journées, surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.